Donc pour la dernière catéchèse de cette année, j'ai la joie de parler de l'Eucharistie. Vous avez peut-être remarqué, et puis vous n'en serez pas étonné, que pour un prêtre l'Eucharistie soit si important. C'est vraiment le bonheur de célébrer l'Eucharistie, et c'est aussi la souffrance de parfois voir dans l'Eucharistie, voir que certaines personnes puissent être aussi indifférentes à ce sacrement. Et je m'appuie pour en parler de l'Eucharistie sur l'encyclique de Jean-Paul II, L'Église vit de l'Eucharistie, une encyclique qu'il a sortie pour les 25 ans de son pontificat, donc c'était un moment symbolique, hein, il fêtait ses 25 ans de pontificat. Il a voulu faire cette encyclique, il avait aussi consacré cette même année au rosaire. Il y a un lien intime entre l'Eucharistie et la Vierge Marie. Et dans son encyclique, la grande nouveauté qu'il a apportée par rapport à ce que l'Église enseignait jusqu'à présent, c'est justement de faire un rapprochement entre la Vierge Marie, la vie de la Vierge Marie, en particulier le chant du Magnificat de la Vierge Marie, et la célébration de l'Eucharistie. Mais cela, ce passage-là, je ne vais pas en parler, parce que je n'aurai pas le temps. Il faudrait en parler. Je pense que l'année prochaine, je ferai un passage sur le Magnificat, enfin, tel que Jean-Paul II le présente, vivre l'Eucharistie comme un Magnificat, à l'école de la Vierge Marie, et puis avec un deuxième point, qui sera quelques conseils très pratiques pour bien vivre l'Eucharistie. Là, je vais parler plus des éléments fondamentaux de l'Eucharistie qui ont toujours été enseignés par l'Église, qui ont été définis parfois dans de grands débats, il y a eu des grands débats théologiques qui ont été définis par l'Église, qui ont été enseignés, mais parfois aussi oubliés ces derniers temps. Alors, pour justement illustrer un petit peu ce que je dis, je lis un petit passage du début de cette encyclique, c'est au numéro 10 de cette encyclique, qui a été écrite donc en 2003. Il n'y a pas de doute que la réforme liturgique du Concile a produit de grands bénéfices de participation plus consciente, plus active, plus fructueuse des fidèles au saint sacrifice de l'autel. Par ailleurs, dans beaucoup d'endroits, l'adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient une source inépuisable de sainteté. La pieuse participation des fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de la solennité du corps et du sang du Christ est une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y participent. On pourrait mentionner ici d'autres signes positifs de foi et d'amour eucharistique. Donc il souligne les points positifs. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on ne vit pas encore tout, puisque la procession du Saint-Sacrement, pour l'instant, reste à son plus cette année, en tout cas, ça sera à sa plus petite expression, le temps d'adoration et puis ce soir un salut du Saint-Sacrement. Alors après, il continue. Malheureusement, à côté de ces lumières, les ombres ne manquent pas. Il y a en effet des lieux où l'on note un abandon presque complet du culte de l'adoration eucharistique. Premier point. À cela s'ajoute, dans tel ou tel contexte ecclésial, des abus qui contribuent à obscurcir la foi droite et la doctrine catholique concernant cet admirable sacrement. Donc c'est surtout dans la manière de célébrer. Parfois se fait jour une incompréhension très destructrice, Parfois se fait jour une compréhension très réductrice du mystère eucharistique. C'est un peu d'ailleurs la raison pour laquelle je vais en parler, c'est pour nous élargir, enfin pas, peut-être pas élargir, mais en tout cas nous rappeler un certain nombre d'éléments importants de l'Eucharistie pour ne pas réduire l'Eucharistie à qu'un petit aspect que nous, on aime bien ou qu'on a retenu. Il continue. Privé de sa valeur sacrificielle, il est vécu comme s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. Donc c'est les deux pendants de l'Eucharistie, deux aspects de l'Eucharistie importants, c'est la valeur sacrificielle, le sacrifice eucharistique, la valeur sacrificielle de l'Eucharistie et la dimension communautaire de l'Eucharistie. Et depuis le Concile, on a mis beaucoup plus l'accent sur la dimension communautaire qui, semblerait-il, était trop absente auparavant. Donc, on a accentué, mais c'est comme un effet de balancier, il faut trouver un équilibre. Donc, le pape Jean-Paul II dit, ben, voilà, il faut pas négliger maintenant la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. De plus, la nécessité du sacerdoce ministériel qui s'appuie sur la succession apostolique est parfois obscurcie et le caractère sacramentel de l'Eucharistie est réduit à la seule efficacité de l'annonce. C'est-à-dire que parfois, on considère, par exemple, pour rapport à l'Eucharistie dominicale, qu'une assemblée de fidèles autour de la parole de Dieu, et puis avec même la communion eucharistique, peut faire office, avoir une valeur presque équivalente à l'Eucharistie, avec la messe célébrée, etc. Et donc Jean-Paul II nous invite à faire attention, à ne pas tomber dans ce piège. D'où, ici et là, ici ou là, les initiatives œcuméniques qui, bien que suscitées par une intention généreuse, se laissent aller à des pratiques eucharistiques contraires à la discipline dans laquelle l'Église exprime sa foi. Comment ne pas manifester une profonde souffrance face à cela ? L'Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions. Voilà, j'espère que la présente encyclique pourra contribuer efficacement à dissiper les ombres sur ce plan. Voilà. Alors maintenant, je vais arrêter de le lire, parce que sinon, on pourra prendre beaucoup de temps. Et je vais reprendre quelques points de cette encyclique, sans être du tout être exhaustif. Puis comme je vous disais, la nouveauté de cette encyclique de Jean-Paul II, c'est sur Marie, la place de Marie. Sachez que certaines liturgies dans d'autres régions du monde, certaines liturgies orientales, donnent une très grande place à la prière à la Vierge Marie au sein même de la célébration eucharistique. C'est-à-dire qu'ils demandent continuellement à Marie, aide-nous, accompagne-nous pour que nous découvrions le grand don de Dieu dans l'Eucharistie et que nous en vivions dans notre vie. Voilà. Le premier point que Jean-Paul II, que vous avez déjà deviné, et que j'ai déjà dit, c'est que c'est un don, c'est le don par excellence. L'Eucharistie, c'est le don par excellence. Saint Thomas d'Aquin dira que tous les sacrements sont importants, il faut les respecter, mais les sacrements nous donnent la grâce de Dieu, ils nous communiquent. L'Esprit Saint agit dans notre vie, nous donne la grâce de Dieu et ça provoque des choses dans notre vie. Ça change. Le sacrement du pardon nous pardonne réellement. Le baptême nous fait vraiment entrer dans la vie éternelle et dans la communauté ecclésiale et pardonne et efface le péché originel, etc. Donc tous les sacrements donnent la grâce, mais le sacrement de l'Eucharistie, la différence, il donne la grâce bien sûr, mais la différence, c'est que là, il donne Dieu lui-même. C'est-à-dire que dans les autres sacrements, on a la grâce de Dieu, mais là, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Et donc, pour cette raison-là, c'est le plus grand des sacrements. Le baptême étant le premier des sacrements, puisqu'il nous fait rentrer dans la vie chrétienne, l'Eucharistie est le plus grand des sacrements, celui qu'on peut recevoir le plus souvent, celui qui nous est donné généreusement par Dieu, qui est l'expression même de l'amour généreux de Dieu. Alors, l'Eucharistie est le trésor de l'Église. Alors, je crois que dans le bulletin d'il y a, pas celui-ci, mais le précédent bulletin, j'ai cité un passage justement de cette encyclique, par rapport au fait qu'on gaspille, il faut savoir gaspiller pour l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est vraiment le trésor de l'Église. Alors, il y a les paraboles qu'on connaît bien, paraboles du trésor trouvé dans un champ, où on vend tout pour acheter ce champ. Eh bien, il y a une attitude comme cela pour le chrétien, c'est d'être prêt à tout vendre, à tout donner, pour vivre de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le condensé, le résumé même est le condensé de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu. Et c'est de là, tout est là, le concile dira que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, parce que tout est là, et c'est de là que doit se déployer toute notre vie chrétienne. C'est à partir de l'Eucharistie que se développe toute notre vie chrétienne. Il ne s'agit pas de se concentrer sur l'Eucharistie comme quelque chose qui serait voilà, un petit moment dans notre vie, mais c'est fait pour que l'Eucharistie puisse nous pénétrer tellement que toute notre vie en soit transformée. Mais il faut quand même découvrir en premier lieu que l'Eucharistie est un vrai trésor. Elle est le centre, le cœur de l'Église, et dans cette encyclique, le pape Jean-Paul II rappellera que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, qui construit l'Église. Sans l'Eucharistie, l'Église ne peut pas se construire. Et inversement, l'Église fait l'Eucharistie aussi. Mais voilà. Et l'Eucharistie, donc, si c'est ce trésor, si elle construit l'Église, elle est faite pour irradier notre vie, pour que Dieu pénètre davantage dans notre vie et pour nous permettre de vraiment répondre à l'amour de Dieu. Pour que nous ayons l'amour de Dieu dans notre cœur qui vive davantage et que nous puissions le répandre autour de nous. L'Eucharistie, c'est Dieu qui mendie notre amour. C'est Dieu qui donne son amour et qui nous demande d'y répondre par notre propre amour. C'est Dieu qui veut nous présenter son amour. Et donc, cet amour de Dieu présenté dans l'Eucharistie, mérite, alors il le dit à plusieurs reprises dans son encyclique, mérite notre admiration et notre adoration. Et à un moment, il dit même en premier lieu des prêtres. Le prêtre devrait être en admiration devant l'Eucharistie, mystère de l'Eucharistie. Alors, répondre à l'amour de Dieu, comme dit la petite Thérèse, l'amour ne se paye que par l'amour. Quand on aime quelqu'un, on attend que l'amour, enfin, quand un amour réciproque, c'est un amour qui circule. Et donc, l'Eucharistie, Dieu nous donne son amour et il nous mendie son amour et on répond par notre amour. Alors, comment répond-on concrètement par notre amour? Eh bien, c'est dans l'Eucharistie, Dieu se donne totalement à nous. Eh bien, il attend que nous nous donnions totalement à lui. Alors, on va se donner totalement à lui dans la prière, dans l'Eucharistie célébrée, dans la prière. Quand on dit « Amen » dans l'Eucharistie, c'est pas simplement « Amen » en disant « c'est vrai, ainsi soit-il », comme on disait autrefois. C'est pour ça que, avant le concile, on traduisait par « ainsi soit-il », puis après, au moment, on s'est dit « Amen », on peut pas le traduire. C'est pas un mot latin, c'est un mot hébreu, et on ne l'a pas traduit, on ne veut pas le traduire, parce que ça veut dire beaucoup plus que cela. C'est une implication de nous. Notre amen, c'est une implication de nous. Dans certaines liturgies, on répète plusieurs fois amen, comme pour dire, la première fois on est distrait, la deuxième fois on fait plus attention, la troisième fois on s'implique vraiment. C'est le principe d'ailleurs des répétitions dans la liturgie, c'est pour que, voilà, au début, c'est superficiel. Deuxième fois, on prend conscience, tiens, on dit, tiens, pourquoi je répète deux fois la même chose? Et la troisième fois, on a vraiment conscience de ce qu'on dit, et on le fait avec réalisme. L'Eucharistie, c'est un trésor, parce que l'Eucharistie nous rend présent, alors ça, c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, rend présent le mystère de la croix. Je vous parlais tout à l'heure, le pape Jean-Paul II, dans le texte que j'ai lu, parle du sacrifice eucharistique. Alors, et j'en parlais tout à l'heure aussi, eh bien, c'est vrai que l'Eucharistie est un vrai sacrifice. Pourquoi c'est un vrai sacrifice? C'est parce que c'est un mémorial ou une anamnèse, dans les termes théologiques, c'est-à-dire ça rend présent l'événement du sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est vraiment mort sur la croix pour nous, on le sait, il est mort et ressuscité pour nous, mais juste avant, il avait dit « Ceci est mon corps livré pour vous en présentant du pain, faites cela en mémoire de moi. » Et tout de suite, l'Église a compris qu'il y avait un lien entre le sacrifice de la croix, la résurrection de Jésus, le don du Saint-Esprit aussi, et la Sainte Cène. Et quand on célèbre l'Eucharistie, eh bien, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Ce n'est pas quelque chose qui a été versé pour vous il y a 2000 ans, souvenez-vous, loin. Non, versé pour vous maintenant. Ça a été fait une fois pour toutes il y a 2000 ans, mais c'est le miracle de la puissance du Saint-Esprit qui fait que maintenant, dans la célébration de l'Eucharistie, nous sommes présents, rendus présents, où Dieu, où le sacrifice de Jésus sur la croix est rendu présent. Et on peut dire, et surtout quand on a la possibilité de communier, tout le monde n'a pas la possibilité de communier sacramentellement, certains ne peuvent pas pour une raison, par exemple, ils ne sont pas baptisés, mais aussi parce que des raisons personnelles ne leur permettent plus. Mais quand on a la possibilité de communier sacramentellement, eh bien, on prend conscience, on reçoit le corps du Christ, chacun individuellement, et ça nous rappelle que si Jésus avait dû mourir pour une seule personne, c'est-à-dire moi, chacun, il l'aurait fait. Et l'Eucharistie nous rappelle cela, c'est-à-dire il nous rappelle qu'il n'est pas mort pour la multitude de façon très anonyme, il est mort pour chacun de nous. Très personnellement, chaque individu est important pour lui. Hein, donc c'est ce sacrifice de Jésus nous est rendu présent, mais pour chacun de nous, et pour que le sacrifice de Jésus porte des fruits dans notre propre vie tout entière. C'est pour ça qu'on revit du sacrifice de Jésus régulièrement pour être libéré de tout mal, de tout péché, et pour vivre de l'amour de Dieu. Parce que le sacrifice de Jésus nous ouvre à la vie éternelle et nous permet de nouveau d'accueillir la présence de Dieu et la grâce. Donc le sacrifice de la croix et le sacrifice eucharistique, c'est un même sacrifice. Mais l'Eucharistie est un vrai sacrifice. Sacrifice non sanglant, mais un vrai sacrifice. Et dans ce sacrifice s'exprime le mystère de la miséricorde de Dieu, le mystère de l'amour sans limite de Dieu, puisque Dieu est prêt à verser son sang pour chacun de nous. Même s'il n'y en a qu'un à sauver, il l'aurait fait pour nous. C'est ce que le sacrifice eucharistique nous rappelle. L'Eucharistie est en même temps une action de grâce. Vous savez que le mot Eucharistie vient d'un mot grec, enfin c'est un mot grec, hein, qui veut dire action de grâce. L'action de grâce qui fait que le sacrifice de Jésus actualisé, hein, c'est dans une atmosphère d'action de grâce. On rend grâce à Dieu, d'ailleurs continuellement dans l'Eucharistie, on rend grâce à Dieu parce que nous, on a conscience du don et de l'amour de Dieu pour nous. Hein, Dieu aurait pu nous créer, nous laisser vivre sur terre et nous regarder, nous battre entre nous parce qu'on est des êtres imparfaits, etc. Mais non, il vient continuellement nous sauver. Alors c'est vrai qu'on se bat quand même, mais il vient continuellement nous chercher, continuellement nous sauver. L'Eucharistie est là pour nous rappeler. Et je reviens vers toi, je reviens vers toi, je reviens vers toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, nous sommes dans l'action de grâce quand nous voyons cet amour insistant, cet amour patient de Dieu envers nous, et puis aussi le résultat du sacrifice eucharistique qui fait que carrément nous sommes réellement libérés de tout mal, même si bien évidemment ça n'empêche pas qu'il nous faut être disponibles à cette libération, c'est-à-dire que Dieu ne peut jamais rien faire sans nous, et donc il faut quand même accepter que l'Eucharistie agisse dans notre vie. Un autre aspect que je vais dire très rapidement, c'est la dimension cosmique de l'Eucharistie. C'est-à-dire que l'Eucharistie, c'est pas notre petite Eucharistie, et puis à la Roche, ils font leur, et puis le pape, il fait la sienne, et puis il y a toutes les Eucharisties sont rassemblées dans une unique Eucharistie, le sacrifice de Jésus, une fois pour toutes. Alors, je disais qu'il y avait une communion avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais aussi, aujourd'hui, toutes les Eucharisties ne forment qu'une seule Eucharistie. Elles sont toutes unies les unes aux autres. Et donc, l'Eucharistie célébrée dans des pays de persécution, l'Eucharistie célébrée dans des pays d'Afrique, ce dimanche matin, dans la joie que savent vivre les Africains, célébrée dans d'autres, dans les liturgies orientales, avec tout le faste qu'on leur connaît, célébrée par le Saint-Père aujourd'hui, je ne sais pas trop d'ailleurs. Ça se trouve, il célèbre simplement une messe dans sa chapelle privée. Tout ça, c'est toute une même Eucharistie. Nous sommes tous liés. Il y a une dimension très, très large de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'Eucharistie, on célèbre l'Eucharistie comme comme les autres la célèbrent. C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas notre Eucharistie à nous avec notre petite manière, mais on célèbre comme les autres célèbrent, selon nous, nous sommes de rite latin, selon le rite latin qui nous est proposé. Voilà. Et il y a une dimension cosmique aussi, parce que toute la nature est intégrée dans la célébration eucharistique. Ce serait un peu trop long d'expliquer cela en détail, et surtout qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident, parce qu'autrefois, on célébrait toujours vers le soleil levant, tourné vers le soleil levant. Maintenant, l'Église est encore construite vers le soleil levant, mais moi, je vais célébrer vers le soleil couchant. Vous célébrerez vers le soleil levant, mais moi, vers le soleil couchant. Or, la symbolique est un peu changée, parce que le soleil levant, c'est le signe de la résurrection, le soleil couchant, c'est le signe de la passion, et surtout, pas surtout le signe de la passion, c'est surtout le signe du péché qui agit. C'est pour ça qu'on entre par le soleil couchant et qu'on marche vers le soleil levant, qui est vers la résurrection. En tout cas, il y a une dimension cosmique dans l'Eucharistie. Il y a une dimension eschatologique, c'est-à-dire que le fait que le Christ... Je ne parle pas de la présence réelle, d'ailleurs, maintenant, dans la catéchèse, parce que je vais en parler dans l'homélie. Le fait que le Christ est présent dans l'Eucharistie, lui qui est aux cieux désormais, eh bien, sa présence et l'œuvre même du Saint-Esprit, qui est très puissante, qui est exceptionnelle, dans l'Eucharistie, fait que nous ouvrons le ciel. Et au Moyen-Âge, c'était très, très, très marqué. Dans les liturgies orientales, encore aujourd'hui, c'est très, très marqué. C'est, pour beaucoup de peuples, c'était aller à la messe du dimanche, c'était goûter le ciel. Ils vivaient un instant de ciel dans une vie qui était parfois difficile, et bien ils vivaient un moment céleste dans l'Eucharistie. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il nous faut aussi vivre cette dimension-là. Donc, et puis, je termine par le dernier point. Un dernier point, c'est la communion. L'Eucharistie, le fait qu'on communie tous au même corps du Christ, nous met tous en communion les uns avec les autres. Et au-delà de nos diversités, de nos points de vue, etc., l'Eucharistie fait notre unité les uns avec les autres et construit l'Église. Et je vous renvoie là-dessus à l'homélie de jeudi dernier du pape, qui a parlé de cette communion, d'une façon très très belle, comme il sait bien le faire, de cette communion. Par la communion eucharistique, on communie tous au même corps du Christ, et donc nous formons plus qu'un seul corps, et nous sommes tous en communion les uns avec les autres, mais aussi avec ceux de l'autre bout du monde qui ont communié au même corps du Christ. Voilà. Merci.